Vous écoutez
RMC.
23h02 sur RMC, ravi de vous retrouver après cette 37e journée complètement folle en Ligue 1. On est avec Kevin Diaz qui est toujours là. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Alors on est en direct du stade Matmut Atlantique à Bordeaux, puisque c'est l'une des informations de la soirée, même si c'est pas mathématiquement, même si c'est pas officiel,
oui,
mathématiquement.
Tu peux y aller sans crainte, Fanfan,
voilà.
Tu peux y aller sans
Bordeaux
crainte.
Qui après son match nul 0-0 contre Lorient évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, quel que soit son résultat, puisque Bordeaux ira à Brest la semaine prochaine. Elle n'a même pas profité, les Bordelais, du faux pas de Saint-Étienne. On y reviendra. Saint-Étienne qui a perdu face à Reims 2-1. Les Stéphanois qui sont 19e, devancés par Metz, par pour l'instant après la victoire 1-0. Et puis dans le haut du tableau, on
ils vont sauver tes grenades.
Peut-être.
Hein, enfant, ils vont sauver, ils vont jouer le barrage au moins des petits grenades.
Non mais alors là,
le pire Daniel,
mais j'annonce depuis quelques temps à la rédaction, tu pourras demander, ouais. Essayer de perdre, ouais. En barrage. Tu fais une remontée comme ça et tu perds en barrage. Voilà. C'est affreux.
Arrête, parle pas de malheur.
Non, mais c'est affreux. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment.
Oui.
Et puis, dans le haut du tableau, complètement fou, bien évidemment. Bon, il y a la victoire du PSG 4-0 contre Montpellier, ça c'est anecdotique. Mais surtout, Marseille qui perd à Rennes et qui perd cette deuxième place. On va reparler avec vous, supporters marseillais 32-16. Marseille qui est troisième désormais.
La si j'étais marseillais, je serais pas totalement déprimé ce soir au vu des affiches de la dernière journée.
Marseille-Strasbourg, bon. Voilà, je le donne, les affiches. Et puis Monaco qui va à Lens. Tout à fait. Monaco qui s'est imposé 4-2.
Ça promet la dernière journée de folie aussi.
La deuxième place. Et puis derrière, Rennes. Rennes peut toujours croire à la troisième place, même s'il faudrait un concours de circonstances. Les Rennais, donc vainqueurs 2-0 de Marseille. Strasbourg s'est imposé face à Clermont et passé devant Nice pour être européen. Cinquième, les Strasbourgeois, grâce à leur victoire 1-0. Nice a perdu gros ce soir, on en reparlera. Les Niçois battus par Lille 3-1 à domicile. Et puis Lens peut encore croire, pourquoi pas, à une place européenne. Et Lens soit septième à 2 points de l'Europe après leur victoire 3-1 face à 3. Voilà, on note également la victoire anecdotique de Lyon face à Nantes, 3-2. Voilà, on va commencer cet after comme d'habitude, bien évidemment avec vos 3 points, messieurs.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Et on va commencer par toi, Daniel, tiens.
C'est difficile de faire 3 points après une soirée à ce point animée. Dans le haut du classement, toujours l'idée évidemment que tout reste ouvert. Et si on reste sur les matchs et sur la très belle victoire de Rennes, franchement, je ne l'attendais pas parce que j'avais l'impression que les Rennais étaient un petit peu moins bien ces derniers temps. Et là, on a retrouvé des Rennais virevoltants. Franchement, ils ont été au-dessus de Marseille. Marseille n'a pas existé dans ce match. Donc, la très belle victoire de Rennes, je vais la mettre en avant. Le comeback improbable de Monaco, je ne sais même pas comment ils ont pu être menés 2-0 dans ce match pour finalement s'imposer. Donc, je pense que la deuxième place se jouera entre Monaco et Marseille. Et puis pour terminer dans les 3 points, mais on va parler de tous les matchs de toute façon. Il y a le bas du classement, le peut-être sauvetage incroyable des Messins qui ont quand même la malchance de jouer le dernier match au Parc des Princes. Les Parisiens qui voudront probablement briller pour la dernière au Parc. Et Bordeaux, c'est fini. C'est une histoire qui était écrite depuis de nombreuses semaines maintenant.
Oui, mais ça reste un choc, bien évidemment, puisque c'est un club phare du championnat.
Mais à un moment, tu récoltes ce que tu sèmes. Hein. Mmh. Et Bordeaux, ça faisait un petit moment qu'il se met de la merde. Hein. Donc à un moment, que ça t'éclabousse. Hein.
Les 3 points de Kevin Diaz.
Écoute, le premier point, ce sera forcément la catastrophe bordelaise qui se concrétise avec quasiment maintenant mathématiquement à 99% ce club historique qui va devoir descendre en Ligue 2. C'est quand même triste. En deuxième point, c'est la lutte pour le haut de tableau avec Monaco qui fait cette remontée incroyable. Encore une fois aujourd'hui, une remontada, ils sont menés 2-0, ils vont gagner un match de façon exceptionnelle avec un beignet d'air qui survole. Et l'OM par contre derrière qui est surclassé à Rennes. Et en 3, c'est la lutte pour le maintien, pour la place de barrage entre Saint-Etienne et Metz. Ça va être très très serré jusqu'au bout et on va avoir encore un très beau multiplex samedi prochain.
Alors, on a perdu François. Ah, on a perdu François, Kevin. Je crois qu'on va continuer l'after tous les deux. Le Fanfan, il a voulu aller à Bordeaux. Et finalement, sa ligne, elle est aussi pourrie, malheureusement, que le jeu des Bordelais. Écoute, je te propose qu'on démarre par le Rennes-Marseille, parce que je pense que c'est le match sur lequel tu étais peut-être le plus focalisé. En tout cas, moi, c'est le match que j'attendais. Je sais pas ce que tu attendais des Marseillais. Je sais pas comment tu envisageais ce match.
Je vais te répondre.
Assez vite. Moi, j'ai eu l'impression que Rennes était supérieur à peu près partout. Ils ont pressé très vite, très haut. Ils ont étouffé les Marseillais. Écoute, j'ai pas, à part Dieng, à un moment où, et on a encore vu sa maladresse technique classique maintenant, j'ai pas souvenir d'une occasion marseillaise en ce match.
Exactement. Alors, hier, pour te dire la vérité, dans l'after du vendredi avec Jonathan et Nico, moi j'ai dit que, alors j'ai rien prédit, mais je pensais que Rennes pouvait rouler sur Marseille, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait contre le Paris Saint-Germain et surtout contre Lyon, parce que Rennes c'était leur dernière chance. On sait qu'à domicile, ils sont quand même exceptionnels souvent. Et Jonathan m'avait répondu, oui, mais attention, Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur. Oui, mais quel Marseille ? Le Marseille de ces derniers temps, ils sont fatigués et je voyais vraiment une équipe de Rennes qui pouvait leur faire très mal. C'est ce qui s'est passé notamment.
Si tu envisageais ça, Kevin, mais c'est vrai qu'il y avait des éléments, c'est-à-dire que Rennes contre les gros. Les bien classés, je veux dire, avaient toujours un petit peu plus de mal. Ces dernières semaines, je les trouvais un petit peu moins bien. Mais alors, c'est vrai qu'il y avait une conjonction de quand Aguerd n'est pas là, cette équipe souffre.
Bien sûr.
Là, il est revenu. Mais alors, j'ai envie de te dire ce soir que ça, de toute façon, je ne sais même pas si on l'aurait vu, l'absence d'Aguerd.
Rennes était meilleur. Comme t'as dit.
Marseille n'a pas sollicité la défense rennaise. Tant ils ont été supérieurs, tant ils ont vite récupéré des ballons. Moi, franchement, ce que Rennes a fait en milieu de semaine à Nantes, je l'ai pas compris. Et ça, cette performance, elle m'est restée un peu en travers de la gorge. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, les Rennes? Ils veulent tout gâcher dans cette fin de saison. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à les envisager être aussi forts ce soir. Écoute, c'est pas grave. Peu importe ce qu'on avait anticipé, ce qu'on avait vu. Toujours est-il que sur le match de ce soir, Rennes a été nettement au-dessus.
Mais c'est une conjonction de facteurs, hein, je pense, Daniel, parce que c'est pas seulement Rennes qui est au-dessus, c'est Rennes qui est au-dessus, bien sûr, tu as raison, et c'est Marseille qui est en dessous, pas forcément de son niveau des dernières semaines, mais qui est en dessous de son niveau sur la saison, parce que, alors, bien sûr, on va parler très rapidement des absents. Quand Dimitri Payet est absent, on sait que c'est difficile. Alors moi,
mais ils ont gagné des matchs sans lui.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, encore une fois, tu commences à le savoir. Moi, le football sans numéro 9, je ne peux pas. Alors, je veux pas tirer sur Sampaoli.
Mais
parce
là
que...
aussi, ils ont gagné des matchs sans
bien sûr,
numéro
Daniel.
9
mais là, tu joues contre une des meilleures équipes du championnat à domicile en plus pour les Rennais. Donc là, tu vas gagner un match.
Je m'attendais à ce que Milik le joue ce match.
Je comprends pas.
La forme globale, je sais pas si ça tenait à ça, Milik ces derniers temps.
Non, je parle pas que de Milik. Ça aurait pu être Bamba Dieng.
Bamba Dieng a joué. Il est rentré, non?
Oui, mais je veux dire, oui, mais attends, la première heure de jeu, Marseille est en difficulté.
Sa maladresse technique, moi, franchement, ça fatiguait les yeux parfois.
Non, mais là, je suis encore une fois d'accord avec toi, mais je veux dire que quand je vois la composition marseillaise, je me dis, ah, c'est pas la composition que moi, en tout cas, à mon petit niveau, je préfère. Ça, c'est sûr. Sans avant-centre, avec un Harit qui doit faire du Payet, ça peut marcher contre Lorient, mais attention, là, tu joues à Rennes, face à une équipe
qui est
blessée.
C'est vrai qu'il a fait du poste pour poste, un petit peu. Il a dit, genre, Harit, tu vas jouer comme si Payet était là. Et
sachant que
t'as
Gerson ailier gauche, qui n'est pas un ailier gauche. Ouais. Donc, il y a encore une fois beaucoup d'inventions. Maintenant, moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Et pour te dire la vérité, j'ai échangé un petit peu pendant le match avec Flo Germain, juste en lui demandant, dis-moi juste si Milik il peut jouer aujourd'hui. Parce que pour moi, si Milik peut jouer, pour moi, c'est une erreur professionnelle de ne pas le faire rentrer dans ce match. Mais je veux croire.
On a énormément de choses. Il faut avancer. Voilà. On a un auditeur qui nous attend. On a plein de choses. Mais refaire le débat.
Non, mais ce soir, sur le match, ça leur manque quand même.
Milik doit jouer, pas jouer. Milik, ces dernières semaines, quand il jouait, il n'était pas bon. Il n'apportait pas grand-chose au jeu.
Oui, mais là, il n'y a personne à sa place.
Alors, on va voir. On a Julien, auditeur de l'OM, qui est avec nous. On va l'accueillir. On va voir un petit peu comment il a vécu cette soirée. Salut, Julien.
Salut, bonsoir, messieurs.
Salut, Julien.
Bon, un OM dominé, hein, malgré une possession favorable, des stats qui, quand tu les regardes de façon un peu brute comme ça, sont un peu favorables, mais dès qu'on passe à occasion de but, tir, Rennes a été au-dessus à peu près partout.
Un écran de fumée, comme d'habitude. Un écran de fumée, si ça me passe, comme d'habitude. On sait faire des passes, voilà, c'est très bien. C'est magnifique. C'est super. J'ai eu envie d'exposer la télé peut-être 36 fois ce soir.
Après, Rennes a le droit d'être meilleur que toi. Hein. Rennes a fait un gros match en qualité de pressing, en rapidité, en efficacité, en transmission. Tout allait plus vite. Hein. Rennes était, on a l'impression que tu regardais un match en ralenti.
Daniel, il y a ça, mais il y a aussi le fait que Rennes a gagné, à la mi-temps, Rennes a gagné plus de 57% des duels quand même. Donc il y a un moment, les Marseillais aussi, pour le coup... ils n'ont pas été vraiment fringants, même dans l'agressivité. Tu avais vraiment l'impression que même si Rennes, dans la fin de la première mi-temps, et après je laisse la parole à Julien,
ils se
sont fait marcher dessus. Et même dans les phases de transition, le deuxième but qu'ils prennent, mais quel état de ça, il n'a pas le droit de défendre comme ça. Il revient en marchant, le ballon il lui passe devant, et ça finit dans les pieds
Mais félicité, mais moi je veux bien, mais ce qui m'agace un petit peu dans cette analyse, les Rennes est troisième du classement.
Mais Rennes a été à son niveau.
Grosse équipe de notre championnat. Marseille. Insister sur Rennes. Rennes a fait un gros match. Et les Rennais qui nous écoutent vont encore dire, ouais, ils parlent de l'OM. L'OM s'est fait marcher dessus. Ils ont joué sans Milik. Payet était pas là. Machin.
Ouais, attends, Julien, c'est un supporter marseillais. Il va te parler de Marseille.
On peut parler de la qualité de Rennes aussi. Ce qu'a fait Rennes, c'est fantastique ce soir. C'est un gros match.
Messieurs, vous plébiscitez vos auditeurs pour vous appeler. Dès qu'ils ont la parole, vous les coupez. J'ai même pas pu en placer une, les gars.
Vas-y, Julien. On te laisse parler maintenant. Vas-y.
Merci. Juste pour commencer, voilà, je veux saluer Rennes qui a fait un très beau match. On s'est fait marcher dessus de la 0e à la 80e. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun débat là-dessus. On a été ridicule dans tous les compartiments du jeu. On a été nul, catastrophique. 600 passes encore une fois ce soir. 600 passes dont 500 stériles qui ne servent strictement à rien. On jouait à la balle. On menait 2-0 et on regardait le ciel et on regardait les tribunes. Il y en a un qui relâchait ses chaussures. Oh, tu joues la Champions League, c'est quoi le discours de Sampaoli? Qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs quand ils vont rentrer sur le terrain? Il a fait une compo comme si on menait déjà 2-0 à la 0e. C'est scandaleux. C'est scandaleux.
Moi je vois pas de scandale. Je vois une équipe plus forte que l'autre et on a
tu
vu
joues,
un Marseille
tu
qui
joues 109,
doit être mis en difficulté.
Un match où tu joues ta qualif. C'est une finale ce soir.
La finale ce sera la semaine prochaine.
Et bizarrement,
la finale c'est contre Strasbourg au Vélodrome.
Tu fais deux actions, c'est drôle ça. Djengi Ranga à la 60e, ok, il a des pieds carrés, mais deux actions. J'ai vibré de la 60e à la 61e sur ces deux actions. Le reste, le néant complet. Alors après, on peut reprendre tout. Rennes a été meilleur que nous, mais Sampaoli sur la composition, dégueulasse. Tu joues une finale ce soir et tu joues petit bras. Et après, va t'embrouiller avec le quatrième arbitre et prends-toi une jambe à la 5e. C'est bon, j'en peux plus. Et je pense pas que je sois le seul.
Ça dépend des semaines en fait, parce que Julien, parce que très honnêtement, il y a une énorme quantité de girouettes à Marseille tout au long de la saison. Je t'avoue que je comprends plus du tout votre discours. Quand ça va, quand ça va pas, honnêtement, l'analyse de la saison de l'OM par les supporters de l'OM, elle est incompréhensible.
Mais c'est une analyse de girouettes.
Quand ils sont contents, ils veulent Milik. C'est samedi prochain le plus important. Samedi prochain, tu reçois Strasbourg. Si tu gagnes contre Strasbourg, que Monaco ne va pas gagner à Lens, et ça va pas être simple pour eux d'aller gagner à Lens, tu seras deuxième. Et alors, et à Lens, ils vont se balader à Lens? À Lens, ils vont se balader, Monaco. C'est écrit.
C'est écrit. Contre Brest, c'est écrit.
Mais il y a quand même quelque chose, Daniel. Parce que la frustration de Julien, tu dis que c'est, il y a des girouettes à Marseille. Mais attention, il n'y a pas que des girouettes. Il y a des gens qui pensent que Sampaoli, il a fait de très bonnes choses. Mais ces gens-là, ils ont aussi le droit de te dire quand ils pensent que la composition, elle n'est pas bonne. Tu vois, c'est possible.
Mais toute l'année, ça a été le même discours.
Mais tu es obligé de juger match après match.
À chaque fois qu'il a changé, les mecs qu'il a fait jouer n'étaient pas forcément meilleurs. Mais essayez de regarder de plus près ce qui s'est passé. Bon sang, toute l'année, vous avez un disque qui est rayé. Vous dites la même chose depuis un an. Arrêtez un petit peu. Pourquoi tu me dis vous dites?
Parce que vous avez le même discours depuis un an. Mais Daniel, je juge.
Jamais le même discours.
Tu peux me laisser répondre. Je juge match après match, Daniel. On est là pour analyser le match de ce soir. Pas les trois derniers matchs. C'est le match de ce soir qui compte.
En fait, le problème, c'est que vous analysez Marseille comme si les autres équipes sur Terre n'existent pas. Vous êtes focalisé.
Monaco, ils sont deuxième, ils sont pas quatrième au début du match, mais Monaco
a une meilleure équipe que l'OM. Tu t'en es conscient ou pas de ça?
Pour moi, je pense qu'individuellement c'est meilleur.
C'est au-dessus. Bon, alors est-ce que c'est totalement illogique qu'à la 38e journée, tu vas avoir deux équipes qui vont démarrer à égalité de points? Et on va voir ce qui va se passer au bout des 90 minutes. Et pour l'instant, l'OM est encore dans la course.
Mais on parle du match de ce soir,
la saison. Et les Milik, et les machins, et les ceci, cela. Qui a été extraordinaire. Quand Milik joue pas, ils font jouer Dieng qui a les pieds carrés. Honnêtement, moi je trouve que déjà l'OM cette année ils ont presque surperformé par rapport à leur effectif. Je suis complètement d'accord avec toi. Les autres ils n'existent pas pour vous. Les autres n'existent pas. Monaco n'a pas le droit d'avoir une bonne équipe. Rennes n'a pas le droit d'avoir une bonne équipe. Personne n'a le droit d'avoir une bonne équipe.
Mais Daniel, Kevin, je suis de retour.
Il y a Fanfan qui est revenu.
On est en direct du stade donc il peut y avoir des petits problèmes techniques parfois, voilà, du stade Matmut Atlantique, où quelques supporters sont d'ailleurs restés. On va surveiller ça, puisque Bordeaux, on l'a dit, on va en reparler dans l'after, mais à part un miracle, ne sera pas en Ligue 1 la saison prochaine, on peut le dire, ils sont en Ligue 2 dès ce soir. Kevin, vas-y, tu peux répondre à Daniel.
Daniel, juste si on peut pas faire Rennes-OM pendant une heure alors qu'il y a 1000 autres équipes qui attendent et qu'on fait les mêmes débats depuis un an. C'est exaspérant, cette focalisation uniquement sur l'OM de Sampaoli.
Si tu voulais juste répondre une minute. Je réponds pour apporter de l'eau au moulin de Julien. Mais Daniel, tu peux pas me dire que on a fait que critiquer ou pas Sampaoli. Moi, quand il a fait choses très bien, je l'ai dit aussi.
Non, mais moi, je réponds plus. Il reste 40 minutes. Il y a plein d'autres choses à dire.
Ok, ne réponds plus. Mais moi, juste ce que je voulais te dire, c'est que tu es le bien placé parce que tu nous parles à chaque fois du contexte. Et tu peux pas me dire qu'un joueur, à chaque fois qu'il joue, il est pas bon. Si on sait très bien qu'il y a de grosses tensions en interne avec l'entraîneur, que l'entraîneur ne l'apprécie pas trop et que lui n'apprécie pas trop l'entraîneur non plus.
Donc, si le
mec est pas bon, c'est qu'il y a des raisons.
Alors,
s'il est pas bon, c'est qu'il a des raisons qu'il est pas bon.
Je suis d'accord avec Daniel. On va avancer parce qu'il y a énormément de choses à dire ce soir, et notamment à Bordeaux où en ce moment là, je le vois puisque je suis dans le stade. Il y a des petits mouvements de foule, en tout cas des supporters qui veulent se diriger vers la tribune présidentielle.
Alors, faire quoi, puisque c'est leur grand copain, le président,
je ne sais pas
qui ils ont
vu,
l'ont soutenu.
Je ne sais pas qui ils ont vu, Daniel.
Se plaindre auprès de qui, en fait.
Mais en tout cas, il y a eu quelques supporters,
la situation du club, elle est autant de leur faute que des dirigeants,
qui sont allés en direction, mais ça a l'air de se calmer du côté de Bordeaux. Juste un petit détour par la boxe parce qu'il y a Tony Yoka qui combat contre Martine Bacolé. Ça se passe à l'Accor Arena de Paris. Morgan Maury, salut Morgan.
Je crois que c'est un vrai combat.
Salut l'équipe. Oui, Tony Yoka, lui, est au bord du ravin. Il vient de vivre les 10 pires minutes de sa carrière en boxe pro face au Congolais Martin Bacolé. Au premier round, Tony Yoka est allé à terre sur une série. Il a posé le genou, il a été compté 8. Il est reparti au combat en survie dans le deuxième et dans le troisième. Le nez qui saigne. On saigne au niveau également des pommettes pour Tony Yoka. Bacolé, c'est une force de frappe avec son bras gauche. Il est doté d'une souplesse étonnante. Il va au corps, il remonte à la face. Et pour l'instant, il ne laisse pas Tony Yoka poser sa boxe, être capable d'enchaîner. Yoka qui est en grande difficulté, est largement mené pour l'instant par Bacolé, 13e mondial des poids lourds, 15e mondial Tony Yoka, qui est pour l'instant invaincu après 11 combats. Mais ce Bacolé est très dangereux. Yoka qui s'enhardit un tout petit peu en ce début de 4e reprise, coup au corps, mais c'est trop peu pour déranger la boxe de Bacolé, qui pour l'instant fait parler sa force de frappe dans ce combat à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Yoka qui est mené, qui est allé au tapis au premier round.
Tu nous appelles bien sûr, Morgan, s'il se passe quelque chose. On reviendra te voir bien évidemment dans cet after. 23h19, on a parlé de l'Olympique de Marseille. On a un peu évoqué Monaco quand même, ce retournement incroyable face à Brest grâce à Ben Yedder. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, messieurs, avant
en fait,
de parler.
En fait, plus que le retournement, c'est comment ils ont pu être menés 2-0. Qu'est-ce qui a fait que Monaco déraille à ce point dans son début de match où Brest a eu une efficacité maximale et ils ont mis un temps fou à revenir dans le match. Après, c'est vrai que quand Ben Yedder a réduit l'écart, je ne sais pas le sentiment général de ceux qui ont regardé ce match-là, mais moi, en tout cas, le mien, ça a été de dire qu'il y avait matière à ce qu'il retourne la situation parce que Brest avait beaucoup donné. Bon, Brest ne joue plus grand-chose, plus du tout rien, d'ailleurs, pas grand-chose, il ne joue plus rien dans cette fin de saison. Et il y avait de la place pour que Monaco retourne la situation, mais surtout, Monaco affiche une confiance incroyable. Et devant, c'est ce qu'on dit depuis des semaines, en fait. L'anomalie de Monaco, ça a plutôt été toute la période où ils n'ont pas été bons, où ils se sont fait sortir en Coupe d'Europe, franchement, de façon lamentable. Mais en fait, là, ils sont à leur niveau, là. Volante, Ben Yedder, Golovin. Ils ont une très grosse équipe Monaco. Le problème, c'est qu'on l'a pas assez vu cette année, mais on est en train de le voir au moment où il faut.
Et en plus, Daniel, ils ont les événements qui vont avec eux, parce que quand tu obtiens ce penalty sur une frappe contrée du coude, enfin sur un centre contré du coude, juste avant la mi-temps, alors que tu es un peu à la rue dans un match, eh ben forcément, ça te donne beaucoup d'envie pour revenir en deuxième mi-temps et faire la diff. Et par contre, là, ils ont pas laissé de place au hasard. Ils ont mis le mode rouleau compresseur et Wissam Ben Yedder a activé le mode super héros avec son Kamehameha pour célébrer ses buts, et franchement il a été exceptionnel parce qu'un but du droit, un but du gauche et un but de la tête, c'est vraiment propre pour en tout cas mettre ton club en belle position pour aller en Ligue des Champions directement.
Il est revenu à une unité de Mbappé au classement des buteurs,
hein. Incroyable, si il finit devant Mbappé avec la saison de Kylian Mbappé, voilà. C'est exceptionnel.
25 buts pour Mbappé qui a marqué ce soir avec le PSG et 24 pour Ben Yedder. Monaco donc qui ira à Lens alors que Marseille recevra Strasbourg qui d'ailleurs joue l'Europe, hein, désormais puisqu'ils sont cinquièmes devant Nice. Et je voulais quand même qu'on s'attarde un peu sur Nice, Daniel.
Tout le monde joue quelque chose sur la dernière journée dans le haut. Là, puisque même Lens, avec un concours de circonstances favorables au niveau des résultats, pourrait accrocher quelque chose. C'est dire comme la dernière journée va être folle.
Et notamment les Niçois qui se déplacent à Reims. Bon, on a vu que Reims, qui a gagné contre Saint-Etienne, bah, même s'ils sont déjà sauvés, il faut quand même aller les jouer. Et les Niçois, ils sont passés de la 3e place à la mi-temps à la 6e place. Ils ont tout perdu en une mi-temps.
Ouais, c'est quand même incroyable le match des Niçois. Ils font plutôt une bonne première mi-temps. On sent vraiment Lille qui est complètement perdue. On voit pas comment les Lillois vont pouvoir revenir dans ce match. Et ils y arrivent quand même. Ils mettent même 3 buts dans cette rencontre. Honnêtement, la semaine niçoise, elle est quand même très compliquée.
Il n'y a rien de logique dans cette semaine, Kevin.
Ouais, c'est incroyable.
La façon, leur match contre Saint-Etienne, il est mauvais et bon. Il y a de la réussite dans le retournement de situation. Tu te dis, ça peut les booster. Ça peut leur permettre de bien finir avec les deux derniers matchs. Et là, ce soir, ils repassent complètement au travers. Franchement, on a l'impression que Galtier, cette équipe, il la maîtrise plus du tout, quoi. Il la maîtrise plus, il n'y a plus le ressort, il n'arrive plus à motiver les mecs, il ne sait pas à coup, il n'y a plus de fil conducteur, on ne comprend rien en fait à ce qui se passe à Nice.
Est-ce que tu vois
à côté de ça, le cas est très lourd avec tout ce qui s'est passé.
Et est-ce que tu vois les images des visages des joueurs sur le banc quand ils rentrent ou quand ils sont sortis? Tu sentais vraiment une force collective dans cette équipe sur les 6 premiers mois. Et là, tu vois que quand le mec il sort, j'ai vu Rosario parler avec Calvin Stengs en mode, non, mais là, on n'y arrive pas. Tu vois, il y a des gestes de la main. Il y a même les joueurs comme Guiri quand ils ont été sortis il y a quelques semaines de cela. On voit qu'il y a quand même des petites tensions et que, le coach, c'est un très, très grand entraîneur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il a quand même perdu.
Cette année, il n'a pas réussi à mettre tout le monde dans le même sens.
On est d'accord.
Tu vois, excuse-moi.
C'est un groupe difficile après, c'est des jeunes.
Non, mais excuse-moi, mais là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a 10 minutes, tu ressors avec les supporters marseillais, vous ressortez sur Sampaoli, machin. Galtier, tu commences par, c'est un très très grand entraîneur.
Mais je pense aussi alors que Sampaoli, c'est un très très grand entraîneur,
alors qu'il est 6e et qu'en ce moment, il tient pas du tout l'équipe. Il tient pas du tout l'équipe.
Mais je viens de te le dire qu'il tient pas l'équipe.
Ouais, mais et tu dis c'est un très, tu vois, c'est
Daniel, bon, enfin, Kevin.
Moi, juste les analyses sont un peu.
On va à Bercy parce que c'est.
Ouais, Yoka, il est en train de regarder en même temps.
Tony Yoka, Morganori.
Ouais, Tony Yoka qui est dans un tourbillon, qui est en train de se noyer. 5e reprise comptée pour la 2e fois de ce combat. Il a été compté à la première reprise et il a été compté une 2e fois par l'arbitre de ce combat. C'est un déluge de coups. Martin Bacolé avec cette jambe gauche avancée, ce bras gauche extrêmement souple. Il avance sur Tony Yoka. Yoka n'a pas le temps d'organiser, de garder sa distance. Lui, son bras gauche qui est son arme fétiche, Tony Yoka, il n'arrive pas à l'utiliser, complètement mangé par Martin Bacolé. Et Bacolé qui réclame à Yoka de venir l'affronter, de donner des coups. Et non, c'est Yoka qui est pris par la boxe de Bacolé. Ce soir à Bercy, il est vraiment tout près du ravin, le boxeur francilien.
Oh là là,
s'il l'emporte
ce soir, ce
sera un exploit. Il a tenté un uppercut, il tente de se rebeller, Tony Yoka. Et Bacolé qui fait non de la tête, il est en train de marcher sur le français dans cette soirée de boxe à Bercy.
Ok Morgan, 23h24 sur RMC, on est dans l'after. On va parler dans un instant bien sûr de Bordeaux, hein. On rappelle qu'on est en direct du Met Mut Atlantique. Ça y est, hein, c'est quasiment vide là, il ne reste plus que la banderole. Vous êtes la honte de nos 140 ans d'histoire. Et ce club historique va descendre en Ligue 2, c'est une des informations de la soirée. On va en parler des Bordelais, de Metz, de Saint-Etienne aussi. On essaiera d'écouter d'ailleurs les conférences de presse des Bordelais et des Stéphanois. Restons sur Nice d'ailleurs parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous parliez de Galtier. Nice se déplace à Reims, on l'a dit, alors que Strasbourg, qui est juste devant et pour l'instant européen, ira à Marseille. Et Rennes également n'est qu'à 2 points, n'a que 2 points d'avance sur les Niçois.
Oui, mais attention François, parce que l'objectif des Niçois à la base c'est quand même d'accrocher le podium. Hein. Je pense qu'au vu de leur première partie de saison, leur objectif, alors je sais pas s'il avait été.
Comment ils vont faire, Kevin, hein.
Non, mais c'est pour ça que je te dis que François est en train de nous dire qu'ils peuvent encore se qualifier pour l'Europe, certes, mais
ça
leur objectif.
Ça sera moindre mal, quoi.
Voilà, bien sûr, leur objectif ce n'était plus ça maintenant. Hein. Je pense que Ineos.
Si Nice accroche quelque chose, ce sera déjà une satisfaction. Après, il faudra régler plein de trucs.
Je suis pas sûr,
dans l'effectif, savoir si Galtier va rester, savoir si Ineos veut investir vraiment. En fait, il y a beaucoup trop de questions autour de Nice en ce moment. Et c'est surtout à ces questions qu'il va falloir répondre. Là, ils sont 6e ce soir. Par rapport à la. Moi, je vois même pas vraiment ce qu'ils peuvent
Mais par rapport au jeu qu'ils ont déployé toute la saison, tu sais que toi, tu les as souvent défendus. Et pourtant, même si je pense que Galtier est un bon entraîneur, en effet, et je le pense aussi pour Sampaoli, ça c'est dit. Mais en tout cas, moi, depuis le début de saison, je dis que Nice ne fait pas partie des 5 meilleures équipes du championnat.
Alors,
individuellement, c'était pas mal, mais collectivement, c'était compliqué.
Ça, moi.
Souvent tu avais dit oui, je suis surtout très entendu.
Je suis surtout très très étonné de t'entendre dire que je l'ai défendu quand tu sais ce qui s'est passé après.
Oui,
après
le PSG. À un moment tu disais que tu leur laissais le temps, etc.
Tronche, quand même.
Je sais bien.
C'était le début de saison quand tu laisses le temps. Mais c'est vieux, Kevin.
On est d'accord.
C'est pas.
Kevin, Daniel, on va prendre Jérôme qui a fait le 32-16, supporter niçois. Jérôme, salut Jérôme.
Salut messieurs, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir appelé pour parler justement de cette défaite niçoise, la défaite au pire moment. Face à Lille. Ton analyse?
Mon analyse, c'est que c'est une défaite qui fait mal, bien évidemment. On a fait un match mercredi. On a perdu cette finale de Coupe de France où on n'a pas été bon, faut pas se mentir. Et là, ce soir, on fait une très bonne première mi-temps. Vraiment, j'ai vraiment apprécié la première mi-temps qu'on a mis que l'équipe a faite. On avait un jeu offensif. Je pense un peu à Daniel qui a beaucoup critiqué le jeu niçois et il avait raison. Et ce soir, dans cette première mi-temps, j'ai vu un Nice très très bon. Et on doit mener 2-0 à la mi-temps, c'est un moindre mal. On le fait pas. Et derrière, on est puni parce qu'il manque des joueurs d'expérience dans cette équipe, parce qu'il y a plein de raisons. Il y a des raisons d'extra-sportives, il y a Ineos, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. On va chercher un mec Brahimi qui joue pas à Angers. Donc, on voit pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans ce match-là parce qu'en cas de victoire, on pouvait se positionner plutôt bien positionné pour la 4e et 5e place. Et là, on va peut-être finir en queue de poisson. On peut même encore être doublé en cas de défaite à Reims par Lens. C'est décevant de finir cette saison comme ça parce qu'il y avait des choses bien, il y avait des choses à améliorer. Mais avec Galtier, je pense qu'on avait l'occasion de franchir un palier. Et j'ai peur qu'on perde un peu tout, quoi, jusqu'à l'entraîneur.
Mais là-dessus, tu as raison de t'interroger sur ce point parce que avec 66 points en cas de victoire sur la dernière journée, je sais pas bien ce que Nice pourra obtenir. Mais au-delà de ça,
au mieux l'Europa League, parce que Marseille joue quand même sa place avec Monaco, donc Marseille joue Strasbourg. ça c'est un coup de pouce du calendrier. Donc si tu gagnes à Reims,
admettons que t'accroches un truc, même la conférence.
T'as pas gagné à Reims.
Oui, t'as pas gagné. Bon, Strasbourg joue à Marseille, donc tu peux envisager que tu sois aidé par ce résultat-là. Mais bon, bref, une fois que ça tombera, soit t'as rien, soit t'as un petit quelque chose. Mais savoir de là où t'es parti au début de la saison, avec t'es très content d'avoir Galtier parce que personne pensait que Nice aurait Galtier parce qu'il était plutôt destiné à aller à Lyon. Il vient parce que Julien Fournier, parce que quelque chose de fort se met en place, parce que Ineos. Et 10 mois plus tard, Galtier et Julien Fournier sont brouillés alors qu'ils étaient amis. Les promesses du projet, on ne sait pas trop où elles sont. Ineos a donné l'impression à un moment de vouloir aller à Chelsea. Et donc ça veut dire en gros que Nice, bah, t'y crois plus quand tu veux aller chez un autre. Et que en gros Nice a été transformé virtuellement à ce moment-là en club filial. Fournier pris un peu dans la tourmente de ce qui s'est passé en Suisse et tout. Donc voilà, cette année qui avait démarré plein d'espoir, je la trouve un peu un petit peu bizarre.
Et
décevante
jeu,
au final.
Le jeu, je rejoins Kevin Diaz.
Ah, le jeu, pas bon.
Tout à l'heure. Le jeu, il n'est pas bon. Je veux dire, tu as des joueurs pour faire beaucoup mieux. Quand tu vois que Dolberg, il ne rentre pas sur les deux derniers matchs, je veux dire, à un moment donné, il y a un problème, il y a un problème de déroulement avec lui.
C'est ce que je te disais.
Il y a des erreurs de casting et moi, j'adore bien évidemment tout ce qui se passe dans ce club. C'est mon club de cœur, c'est 25 ans que je porte cette équipe. Mais je suis abonné, je vais à tous les matchs. Encore une fois, quand déjà tu perds trop de matchs à domicile, quand tu es incapable et que tu perds trop de points à domicile, tu ne peux pas être européen. Donc, aujourd'hui, finalement, c'est un peu la vérité qui sort.
Mais les matchs à domicile, en plus, tu as raison d'en parler, Jérôme, parce que souvent, ça reflète ta qualité de jeu. Parce qu'à domicile,
tu dois faire le jeu. Exactement. Tu joues contre des équipes qui sont
en bloc bas. Tu joues contre des équipes qui vont t'attendre. Et c'est là où tu dois faire du Rennes, ce que fait Rennes ou ce que fait Marseille aussi par intermittence, plus souvent à l'extérieur, arriver à avoir des enchaînements, des combinaisons, des automatismes. Mais pour avoir tout ça, il faut faire aussi moins de changements dans ton 11 de départ. Et il faut dire que Christophe Galtier a beaucoup changé, peut-être trop changé. Il n'a jamais trouvé les joueurs. Jérôme, je ne peux pas te laisser dire qu'il n'a pas les joueurs. Il a un des meilleurs effectifs de Ligue 1 en termes de. Après,
non,
est-ce qu'il.
Est-ce... Non,
attends.
Il n'a pas un des meilleurs effectifs de Ligue 1.
Il a un très bon effectif pour proposer.
Oui, mais
il a quand même un très bon effectif.
Par contre.
Non, mais attends, juste, je te dis que pour moi, il a un très bon effectif, mais à certains postes, il est pas très bien équilibré. Par contre, parce que aujourd'hui, quand tu vois un joueur comme Melvin Barre, alors apparemment, c'était pas le premier choix de Christophe Galtier. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
Non, mais il est bon depuis un certain moment.
Mais aujourd'hui, vous prenez le premier but, c'est à cause de lui, parce qu'il couvre pas bien son côté. Il y a une transversale, il la voit pas venir. Et Ouéa lui pique
Kevin,
le ballon.
Tu vas pas attendre de Melvin Barre que ce soit un patron de la défense.
Je te donne juste un exemple sur les défaillances individuelles que tu peux avoir malgré un bon effectif. Et juste le dernier but, c'est Dante.
On a cru qu'il était très bon, mais il est peut-être pas tant que ça.
Non, j'ai pas dit. J'ai dit qu'il est de bonne qualité.
Non, mais peu importe.
Je te dis que c'est un effectif qui est de bonne qualité, mais où il y a des défaillances à des postes clés. Bon. C'est tout ce que je veux dire. Et juste le cas de, tu parlais du cas de Brahimi. Brahimi, il est recruté pour faire de la post-formation, voire de l'achat-revente. Mais derrière, t'as un joueur comme Kluivert qui te fait une saison plutôt correcte, et on apprend qu'il sera pas conservé. Donc il y a des choses que je comprends pas.
Ok. Bon, merci beaucoup, Jérôme.
Pardonne-moi, mais un dernier mot sur Nice. La gestion de Gouiri, qui à un moment est vendu comme le gars, il doit aller en équipe de France. C'est un crack, et c'est vrai qu'il a eu des actions de très grande classe à un moment, et c'était lui qui a même semblé tenir le club, on va dire au début de l'année civile. Il a complètement disparu.
Ouais.
D'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le positionnement évolue, pour qu'en gros on lui fasse plus confiance comme second attaquant dans le 4-4-2. Et derrière, plus rien. Gouiri a disparu, plus décisif, plus de passes, plus de buts, plus rien. C'est Delors, arrivé en cours de route dans l'histoire, qui est devenu le taulier offensif de cette équipe.
Bon, on va remercier Jérôme.
Je trouve que les équilibres et le fil conducteur à Nice ont été perdus en cours de route.
Merci beaucoup Jérôme, bonne soirée à toi, et donc on suivra le déplacement de Nice face à Reims.